Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la radio du sud de Toulouse, Radio Galaxie 98.5 FM. Et nous allons continuer la découverte de notre artiste peintre local, Salvador Caval. Et je m'excuse pour la fois précédente où j'ai mal prononcé son nom, on aurait pu comprendre Salvatore, et c'est Salvador et Caval. Bonjour Salvador.
Bonjour.
Salvador, on va enfin arriver à la conclusion de ces épisodes, de cette vie un peu chaotique qui nous a poussé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on était arrêté la fois dernière, et d'ailleurs on peut réécouter les épisodes précédents en podcast sur le site de Radio Galaxie, dans la rubrique « Rencontres avec des artistes », où vous vous étiez fait
piraté, trompé
par un imprimeur, et vous aviez retrouvé des copies pirates un peu partout sur les marchés internationaux. Alors, il s'est passé quoi ensuite ?
Mais il s'est passé que... Après avoir recherché des preuves, parce que la priorité, c'est d'acheter des éditions avec les différences de couleurs pour montrer que ce n'est pas des originaux, c'est des éditions pirates, avec des copyrights différents, parce qu'ils avaient mis des copyrights différents. Il y avait 9 sociétés qui avaient participé à l'opération, un peu partout en Europe, même ailleurs. Et une fois que j'ai eu toutes ces preuves, je me suis adressé à un buffet d'avocats. J'en ai cherché plusieurs, j'ai pris le plus important... Le plus réputé, un des plus gros buffets d'Espagne, Jaus Associaus, qui est à Barcelone. Et donc, j'ai commencé à entamer une procédure judiciaire.
Donc, vous aviez récupéré les preuves, vous avez contacté le plus gros avocat, parce qu'il faut rappeler quand même que c'était le plus gros imprimeur d'Espagne.
C'était pas le plus gros, mais c'était celui qui avait le plus de réputation, parce qu'il était président de la patronale européenne d'imprimerie et président de la patronale catalane d'imprimerie. Donc, une notoriété dans le monde de l'édition.
Et vous connaissant, j'imagine que vous êtes arrivé chez votre avocat avec un paquet complet, avec un gros dossier.
Ah ben, je suis arrivé chez l'avocat, j'avais déjà tout préparé, parce que bon, en amont, j'avais fait des recherches. Bon, comme j'étais imprimeur, éditeur, j'avais toutes les qualités techniques pour pouvoir démontrer les différences entre les originaux, ceux qui étaient pirates, etc. Avec des planches de tirage, des bons à tirer, enfin tout un tas de matériel pour prouver les falsifications.
Mais vous étiez en quel état à ce moment ? J'imagine un peu en état de colère.
Ben, l'état de colère avait passé, parce que ça demande un tel travail que la colère disparaît. La colère, c'est au début quand ça m'est arrivé, quand j'ai bu le bouillon et que j'ai perdu en 3 mois tout ce que j'avais. Là, c'était plutôt la persévérance. J'étais plus concentré sur ce que j'avais à faire que ce que je ressentais.
Vous cherchiez quoi à la base ? C'est à récupérer vos droits
À la base, la première chose qu'il fallait que je fasse, c'est arrêter l'hémorragie, parce que imaginez, il y en avait de partout. Donc le marché était inondé de piraterie, ce qui posait problème à mes amis, ce qui posait problème à moi, parce que bon, moi j'avais coulé ma boîte. Hein. Et donc il fallait faire condamner les gens pour qu'on soit indemnisé et pour que toute cette piraterie disparaisse du marché.
Et que vous puissiez continuer à travailler et reprendre vos œuvres.
Et reprendre ma vie d'artiste. Mes amis en France ont eu un peu moins de problèmes que moi parce qu'il y avait moins de distribution. Je suppose qu'ils étaient attentifs au fait que ce soit la France et que donc à cette époque-là c'est mieux protégé en France qu'en Espagne. Mais moi, en Espagne, j'étais grillé de chez grillé, quoi. Vraiment, je ne pouvais plus rien faire à ma peinture.
Vous êtes allé voir votre avocat,
oui.
Vous lui avez tout donné.
Et voilà, alors... c'est un très très gros buffet, donc je lui demande combien ça coûte. Et il me dit non, vu le dossier, on va partir au pourcentage. Vous me donnez 5 000 euros au départ, et on va partir sur une indemnisation de 3 millions d'euros. Et je veux, moi je crois que c'était 20%, je crois, ou 25% de l'indemnisation. Je dis bon, tiens, je signe le contrat, etc. Déjà, j'ai vu qu'un truc, sans connaître le monde juridique, j'ai vu que ça traînait beaucoup. Parce qu'avant, entre le moment où j'ai signé le contrat et le moment où il a déposé la plainte, il s'est passé quand même presque un an et demi. Donc un an et demi pour un dossier, alors que j'étais déjà tout fait, je trouvais ça un peu... C'était pas ça.
Gros avocat, beaucoup de travail.
Mais j'ai mis ça sur le fait que c'était un des plus gros d'Espagne. J'ai mis ça sur ce compte-là. Mais est arrivé le moment où la plainte a été déposée et moi, je pensais pas qu'on allait à un pénal, je pensais aller vers la voie civile.
La différence, c'est quoi entre les deux ?
Alors, la différence, elle est très simple. Le pénal, c'est pour amener les gens qui ont fait le délit en prison, et le civil, c'est pour qu'ils vous remboursent. Voilà, la différence, elle est là. Sauf que la tactique de beaucoup d'avocats en Espagne, c'est que quand il y a un truc comme ça, pour aller plus vite et pour que ce soit plus radical, les avocats déposent une plainte en pénal, parce que les gens qui sont en pénal, ils ont beaucoup plus la trouille, et donc sont plus enclins à ne pas faire traîner et à payer. Voilà.
C'est-à-dire ne pas aller au bout de la procédure, mais de trouver un arrangement.
Voilà, tout de suite, tout de suite. Donc là, on dépose la plainte, et donc je suis convoqué devant un juge en pénal. Je dois avouer que moi, j'avais jamais été à le pénal. Je connaissais un peu. C'était pas non plus une partie de plaisir, même si j'étais la victime. Et donc, j'arrive dans la salle, il y avait les parties contraires, compagnie. On nous appelle de rentrer. Et je vois que lui rentre pas et moi. Et mais, j'ai dit, mais non, mais tu y vas seul. Je suis là, mais je t'attends, tu dois y aller seul. Moi, j'étais un peu surpris. J'ai dit, bon, je rentre, donc je rentre dans la salle. Je vois toutes les parties en face, parce qu'il y a plusieurs sociétés qui étaient mises en cause. Et moi, j'étais de l'autre côté, tout seul. Et j'avais à gauche le greffier, je ne sais pas comment on appelle la personne qui accompagnait le juge, et le juge énervé. J'ai dit, déjà, ça commence bien. Je le voyais qui trifouillait dans le carton à dessin, il avait un petit carton à dessin, et d'un seul coup, bon, c'était un espagnol, hein, je traduis, il me dit, mais je ne comprends pas, cette plainte, je ne la comprends pas. Où sont les preuves? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien là. Et moi, là, je commence à devenir blême. J'ai dit, monsieur le juge, je ne sais pas, moi, j'ai amené moi, des bandes de tirage, j'ai amené des lithographies, j'ai amené des reproductions. J'ai tout un dossier. Il me dit, mais c'est où? Ben, vous devez l'avoir. Puisque... Elle me dit, mais moi, j'ai que ça. Et il me dit d'un seul coup, il me dit, mais votre avocat, il est où? Vous n'avez pas d'avocat? Et j'ai dit, si, mais il est dehors. Il m'a dit de rentrer seul. Comment ça, seul? Qu'on l'appelle. Et mon avocat arrive et il s'assoit à côté de moi. Et la première phrase que je lui dis, là, le monde s'est écroulé autour de moi. Je me tournais, j'ai dit, où sont les preuves? Il se retourne devant le juge. Et dans toutes les parties contraires, à côté de moi, il me regarde et me dit, mais tu me les as jamais donnés. Le sang s'est glacé. Là, je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus où j'habitais, je ne comprenais plus ce qui se passait. J'étais vraiment... Et je pense que le juge, qui a l'expérience, a vu ce qui se passait. J'ai compris après, pour deux choses. Premièrement, ma tête. On voyait bien que j'étais de bonne foi. Et parce que j'avais à côté de moi un des plus gros avocats d'Espagne qui avait déposé une plainte de merde. Parce que cette plainte, il y avait 5 feuilles, et quand je porterai la vraie plainte ensuite avec notre avocat, on y est allé avec une fourgonnette pour livrer au tribunal. Et donc, le juge, il a compris tout de suite ce qui se passait, ce qui m'a sauvé d'ailleurs. Et donc, je sors de la salle, il va voir la partie contraire, on se tape sur l'épaule, on est content, on se connaît, et il vient me voir et me dit, oui, en fin de compte, ils n'ont rien fait, mais ils vont te indemniser un peu quand même. Je regarde, j'ai dit, ah bon? Moi, je m'étais un peu repris quand même depuis, que je rentre chez moi, le même soir, je prends le téléphone, et ben je licencie mon avocat. Ah oui, mais oui. Moi, j'avais 5 jours plus tard la comparaison contraire. C'est-à-dire que là, c'était moi qui allais être interrogé, et ensuite, c'était à mon avocat d'interroger la partie contraire. Mais je n'avais plus d'avocat. Et donc, je fais ce qu'on ne peut pas faire. Je ne le savais pas. Je me renseigne quand le juge qui avait fait mon audience était de garde. J'ai appris beaucoup de choses sur la justice depuis. Hein. Et donc, je me pointe et il me voit arriver. Il me dit, et toi, qu'as-tu fait ici? Enfin bon, je te dis, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je viens voir parce que j'ai un problème avec l'avocat. Et il me dit, oh, ça ne m'étonne pas. Moi, je n'ai pas de conseils à te donner, mais je crois que... Mais je dis, ben, je viens vous voir pour ça parce que je l'ai viré. Il me dit, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, le problème que j'ai, c'est que dans 4 ou 5 jours, je n'ai pas d'avocat. Et il me dit, je suis désolé pour toi, mais là, je ne peux rien faire parce que c'est fait. Moi, j'interrogerai à ta place la partie contraire. Me dit, c'est même pas la peine que tu viennes. Après, on a arrêté de parler de ça, on a parlé de peinture, et c'est après que j'ai compris ce qu'il avait fait. Ce qui s'est passé, c'est que quand la deuxième comparution, pardon, s'est faite, et lui, il a fait une sentence, enfin une résolution, je ne sais pas qu'on appelle ça, que je reçois. Merci mon Dieu, merci l'univers, merci tout le monde. Ce qu'avait fait le juge, c'est que j'avais été débouté du pénal. Par contre, il avait tout mis, absolument tout pour que je puisse repartir de nouveau par la voie civile. C'est-à-dire qu'il reconnaissait qu'il y avait toutes les infractions qui avaient été faites, etc., mais qu'il estimait qu'elles étaient du civil, pas du pénal. Et donc, je pouvais repartir vers le civil.
La mise en place de ce procès, les procédures, le temps que ça a pris, c'est quoi?
J'ai quasiment sacrifié presque 9 ans de ma vie pour ça. Vraiment. Parce que je n'ai pu travailler que pour ça, pour payer. Parce qu'après cette mésaventure, je me suis attelé pendant presque 3 ans à étudier toutes les lois. Toutes les lois des droits d'image, des droits d'auteur, propriété intellectuelle, droits de suite, tous les droits, je me les suis tapés, les uns après les autres.
En fait, vous êtes devenu, à la suite de ça, expert auprès des tribunaux en Espagne.
Eh bien, c'est vrai qu'à la sortie, pas tout de suite, mais quand on était en cours de procédure, hein, j'ai fait faire des expertises. Les expertises, en fin de compte, je savais plus que les experts. Donc du coup, les experts m'ont embauché après à moi et m'ont habilité auprès des tribunaux de Barcelone comme expert. Mais ça, c'est pour plus tard.
Mais cet avocat que vous avez viré, entre guillemets, là, il se laisse faire, lui?
Ben, il n'était pas content parce qu'il a croqué de la part contraire, mais il n'a pas l'habitude de se faire virer. Et il me met au tribunal pour me réclamer 35 000 euros, soi-disant du travail qu'il avait fait, etc., etc. Et donc me voilà parti dans une procédure judiciaire qui était assez rapide, ça a duré quelques mois. Je prends un petit avocat, je gagne.
Et donc là maintenant, vous prenez un nouvel avocat pour pouvoir attaquer au civil la suite du procès.
Ah ben je dois tout recommencer, j'ai plus de preuves. Parce que l'autre avocat m'avait volé toutes les preuves, parce que moi quand j'ai voulu les récupérer, j'ai pas pu. On ne demande pas un reçu, un avocat. On lui fait confiance normalement. Et donc j'ai dû pendant de nouveau attendre plus d'un an, un an et demi, de recommencer de nouveau à retrouver, heureusement j'avais de la photogravure parce que il y avait 40 modèles, donc j'avais amené des preuves sur 4 ou 5 modèles. J'en avais encore en réserve. Il y avait des choses que j'avais plus, mais j'avais assez de nouveau de reconstituer de nouveau tout un dossier pendant un an et demi, de racheter de nouveau toutes les lithographies, les reproductions en Grèce, en Europe. Et là, je suis parti avec un avocat beaucoup plus petit, qui d'ailleurs vient de temps en temps me voir à Martre parce qu'on est devenus amis, avec les galères qu'on a eues. Et donc, on est reparti dans une procédure judiciaire, c'était très très long, contre pronostic de mes amis, des gens qui me connaissaient et de tout le monde, qui me disaient « tu vas jamais y arriver ». Enfin, j'avais 9 sociétés. Et donc, personne ne me donnait gagnant. J'ai gagné. J'ai gagné, en plus une sentence qui a été mémorable. J'ai gagné, mais ils ont fait appel. Et en appel, au lieu d'un, c'est 3 juges. Et les 3 juges, alors là, ils en ont mis encore une couche encore plus forte. Et donc, depuis, 16 sentences, j'ai fait jurisprudence pour tous les artistes en Espagne.
Vous avez gagné le procès. Vous avez gagné combien?
Alors, j'avais normalement, encore une histoire, les experts ont vu qu'il y avait à peu près pour 10 millions d'euros qu'ils avaient vendus. En signant un endroit qu'aux 4 dernières années. Donc j'avais droit, je crois, grosso modo 3 millions. Mais le problème, c'est que quand on pose plainte au civil et qu'on demande une indemnisation, il faut mettre une caution à la hauteur de l'indemnisation qu'on va demander. Donc moi, pour demander 3 millions d'euros d'indemnisation, et vu que j'avais 9 personnes et entreprises à qui j'ai porté plainte, il fallait apporter une caution que si jamais je perds, je paye tous les frais du jugement et les frais de toutes les parties contraires. Donc ça me représentait à peu près dans les 40-45 000 euros qu'il fallait que je dépose. Que je n'avais pas, évidemment, que je n'avais pas. Alors, à la grande surprise de mon avocat, j'ai 70 balais là maintenant, il y a 7 ou 8 ans que ça s'est passé ça, j'avais sacrifié 10 ans de ma vie. Moi, ce que je voulais, c'était revenir à la peinture. Moi, ma vie, ça a toujours été la peinture. Et donc, quand j'ai dit combien de temps on en a, il m'a dit, ben, ça peut repartir pour 4, 5 ans. Et j'ai dit non, je laisse l'argent, j'arrête. Ils ont été condamnés, ils ont tous fermé parce que le président de la patronale, il s'est fait virer de l'Europe, il s'est fait virer de la Catalogne, il s'est fait virer de partout. Il a perdu ce qu'il avait, parce qu'ils ont tous perdu ce qu'ils avaient. Moi, j'ai rien gagné, mais ils ont tout perdu. Moi, j'arrête, je veux revenir à la peinture. Et c'est-à-dire en France.
On arrête l'Espagne et on a décidé de reprendre ses valises. Je reviens en France. Où ça, en France?
Alors, je reviens là où j'ai commencé la peinture, c'est-à-dire à Toulouse. C'est à Toulouse que j'étais dans les années 80, quand j'ai commencé à peindre. Et je reviens à Toulouse. Je crée des nouvelles peintures sur Toulouse, etc. Parce qu'en général, je fais des créations très variées, mais c'est des lieux où je suis, où je vis, où ce qui m'entoure. Et donc, je fais toute une collection d'aquarelles sur Toulouse et j'expose au Capitole. À la mairie de Toulouse. C'est ma dernière exposition en couleur.
Ces aquarelles, elles ont quelle dimension? C'est des petits morceaux, c'est des grands morceaux?
En général, moi, je vois tout en grand. Et donc, c'est vrai que je peins des aquarelles qui, en général, font un mètre et des poussières par 80. Enfin, c'est des grandes pièces. J'aime les grandes pièces.
Donc, exposition au Capitole, c'était en quelle année, ça?
Ça doit être 2018-19.
Donc, exposition à Toulouse, ça marche?
Oui, ça marche. Puis, moi, je rencontre du monde, je me fais des relations. Et puis, je commence de nouveau à reprendre ma vie de peintre. Et je fais partie d'une association qui s'appelle les peintres du Quai de la Dorade à Toulouse.
Et en écoutant tout ça, je me rappelle un petit peu ce qu'on s'est dit dans la première émission. C'est que quand vous racontez votre vie, les gens ne vous croient pas.
Ah non. Je me répète peut-être, mais quand je rencontre quelqu'un, un organisme officiel ou la municipalité, n'importe, en général, je leur dis toujours la même phrase. Je vais vous mentir. Parce que si je dis la vérité, je me fais virer. Quoi. Enfin, ils pensent que je suis un mytho. Alors, ça les surprend. Mais par contre, je laisse tout un dossier. Mon book, etc., les actes de presse, tout ce qu'il y a eu. Et quand on me rappelle, on me dit toujours la même chose. Vous avez eu raison de ne pas nous dire tout ça et que nous, on le découvre parce qu'on ne vous aurait pas cru.
Et là, encore une fois, on a décidé de tout changer.
Oui, parce qu'en fin de compte, la couleur, elle avait été galvaudée, la peinture avait été galvaudée, piratée, donc je me sentais plus tellement bien avec, et j'avais besoin de renaître.
Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Donc la cinquième partie, la renaissance de Salvador Cavalla, c'est-à-dire le peintre aujourd'hui, ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il nous propose. Merci pour cette vie romanesque, j'allais dire, Salvador, et puis à bientôt pour une cinquième partie.
À très bientôt, merci.
Radio Galaxie, c'est vraiment différent. Et c'est très bien comme ça.